Ribine, le magazine qui explore, qui visite, qui voyage et qui découvre. Parcourez les chemins de traverse en suivant nos micros.
Il n'y a pas de bon lavage sans rinçage répété, profond et méticuleux. C'est comme ça, dans la machine à laver Vedette. Des rinçages profonds, méticuleux, qui enlèvent la moindre trace de lessive. Comme la mère Denis, Vedette mérite votre confiance.
Mais ce que la mère Denis ne sait sans doute pas, c'est que la fabrication, le transport et l'usage d'un lave-linge représentent l'émission de 500 kg de CO2 d'après un rapport de l'Agence de la transition écologique française. 500 kg de CO2, c'est un trajet de 2500 km en voiture ou encore un vol de Paris à New York.
One, two, three, four.
20% des plus riches qui émettent 50% des émissions de CO2. Donc clairement, on se dit quoi? On se dit, bah moi je fais pas partie de ces 20% les plus riches. Donc c'est pas à moi de faire les choses, c'est pas à moi de passer à l'action. Donc c'est intéressant hein, comme sujet et comme chiffre. Sauf que bon, la France c'est bien, mais on sait que les choses elles s'arrêtent pas aux frontières de la France. Là on parle de la planète en général. Et si on prend un petit peu de recul, et qu'on regarde ce qui se passe au niveau de la planète, c'est pire que ça, c'est 10% des plus riches de la planète qui émettent plus de la moitié des émissions de CO2. Donc là on se dit encore plus, ok, alors clairement c'est pas du tout mon sujet, j'ai rien à faire là-dedans. Sauf qu'en réalité, toute personne qui touche plus de 1300 euros net en France fait partie des 10% les plus riches de la planète. Et donc des personnes qui émettent plus de la moitié des émissions de CO2. Pour nous, 1300 euros net, clairement, on fait pas grand-chose. On vit pas. Sauf qu'il y a de telles inégalités sociales dans le monde qu'on fait partie des 10% qui émettent le plus de CO2.
Un lave-linge a une durée de vie allant de 4 à 10 ans. Et malheureusement, elle ne cesse de diminuer avec l'obsolescence programmée. Et ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'objets électroménagers que possèdent les foyers. Mais comment faire quand notre lave-linge, notre bouilloire, notre cafetière nous lâchent? Comment faire quand on n'a pas les moyens d'acheter du haut de gamme ou du neuf? Comment s'équiper de manière plus responsable dans un monde où rien ne dure? Souvent, quand on a besoin d'acheter quelque chose, c'est plus facile d'acheter du neuf. C'est immédiat, on rentre dans le magasin et on ressort avec une machine à laver, un frigo, une cafetière ou même un téléphone. Et puis, dans l'opinion publique, acheter neuf, c'est aussi très rassurant. Personne n'a usé l'objet avant nous, il apparaît de meilleure qualité. Acheter neuf, c'est aussi avoir un accès au bas de gamme et à des prix avantageux. Et souvent, l'objet est garanti 2 ans. Mais acheter neuf, ça pollue. Et c'est pas forcément toujours avantageux financièrement. Mais quand on veut faire autrement, c'est pas non plus toujours évident. Il faut avoir le temps de trouver des alternatives, de chercher des contacts et des astuces autour de chez nous pour s'équiper de manière plus durable et respectueuse de l'environnement.
Mieux s'équiper, c'est-à-dire à la fois donc, pour moi, ma santé, pour mon porte-monnaie, parce que c'est aussi important, et puis pour la planète en général.
Mais ce que j'aimerais aussi souligner, c'est qu'on mériterait avoir un peu plus de transparence
vis-à-vis des constructeurs. Tout à fait.
Parce que des fois, il y a des matériaux qui... Enfin, il y a une machine à laver, elle va être made in France, mais les composants viennent d'ailleurs. Donc c'est vraiment compliqué, je trouve, aujourd'hui, d'avoir de la traçabilité.
Oui, tout à fait.
Alors cette semaine, les Ribines nous amènent à la rencontre de plusieurs acteurs de l'équipement dans le Finistère pour essayer de comprendre quels sont les différents modes de consommation de biens, les éventuels freins et les alternatives qui existent sur notre territoire. En discutant avec eux, nous aborderons des réflexions autour du rapport à l'objet, de l'utilité qu'on a de celui-ci et de notre besoin incessant de propriété. J'ai commencé mon périple en allant chez Electrodépôt, magasin d'électroménager brestois au prix imbattable.
Donc Electrodépôt, c'est une enseigne d'électroménager qui compte bientôt 100 magasins en France. Le centième va ouvrir à Saint-Brieuc dans les prochains mois.
Victor Van Wildermersch, directeur adjoint chez Electrodépôt.
C'est une entreprise qui devient leader. On vend principalement des produits neufs, mais depuis quelques années maintenant, on se dirige de plus en plus vers tout ce qui est produits reconditionnés. On a commencé avec des familles comme les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Maintenant, dans la moitié des magasins en France, on vend aussi du gros électroménager reconditionné, donc qui est réparé par des reconditionneurs et qui s'est remis en vente chez nous avec une garantie de 2 ans, de la même façon qu'un produit neuf. C'est dans la moitié des magasins en France.
Est-ce que d'après vous, il y a une forte demande d'appareils reconditionnés ?
Alors oui, il y a une forte demande parce que les gens commencent de plus en plus à se poser la question, surtout d'un point de vue écologique, etc., mais aussi d'un point de vue prix. On a une clientèle qui recherche les prix les plus bas et c'est un des avantages des produits reconditionnés. On vend beaucoup de produits à bas prix et aujourd'hui, les gens sont, en tout cas, se posent de plus en plus de questions, mais ils ont aussi quelques réticences sur tout ce qui est reconditionné.
Quelles seraient les réticences principales ?
Sur la qualité du produit, sur la durée de vie, sur la vie qu'il a eu avant, qu'est-ce qu'il en a été fait et la fiabilité surtout.
Est-ce qu'ils ont raison ou...
Alors, il y a un taux de panne un petit peu plus élevé sur des produits reconditionnés, évidemment, mais ça reste des produits qui ont la même garantie et qui ont été testés avant d'être mis en vente. Donc, il y a effectivement un tout petit peu plus de panne, mais ça reste des produits qui sont fiables sur la quantité vendue.
Pour les produits électroménagers qui sont reconditionnés, ça se passe où ? Ils viennent d'où ?
Alors ça dépend de la zone géographique, mais en gros dans chaque zone, on recherche des réparateurs, donc c'est des techniciens qui en font leur métier, ils réparent des produits qui sont soit cassés, abîmés ou en panne, ils achètent des pièces détachées, les pièces qui sont défectueuses sur le produit, et ils nous renvoient les produits derrière pour que nous on les remette en vente. Donc finalement c'est des produits qui ont été jetés ou vendus, cassés par d'autres clients à des réparateurs qui en refont peut-être avec 3 produits, ils font un lave-linge pour donner un exemple, et c'est remis en vente derrière.
En fait, en tout cas sur les téléphones, ça peut être acheté partout dans le monde, mais par contre c'est exclusivement reconditionné en France.
Sébastien Rameau, équipier chez Electrodépôt.
On travaille avec des prestataires, mais en tout cas des acteurs français.
Quel est l'appareil le plus dur à réparer ?
Alors, le plus dur...
Ou à reconditionner ?
Alors, le plus dur, c'est sur tout ce qui est froid. C'est vraiment des produits qui sont soit très compliqués à réparer, ou alors très coûteux et qui coûtent plus cher à réparer qu'à remettre en service. C'est la même chose pour tout ce qui est télévision. Aujourd'hui, une télé cassée, ça coûte plus cher à réparer que d'en racheter une nouvelle.
Quel appareil électroménager vous vendez le plus ?
Les lave-linges, clairement. Le gros électroménager, oui, les lave-linges. Oui, c'est ça, sur le gros électroménager, ça va être toutes les familles du gros électroménager, mais ça va être lave-linge, sèche-linge, frigo, voilà, les gros, très grosses familles, ça va être ces 3-là, ouais.
Est-ce que vous diriez qu'une gamme de produits plus coûteuse va tenir plus longtemps et de meilleure qualité, ou c'est pas forcément corrélé au prix ?
Clairement pas, c'était vrai il y a 30 ans. Maintenant, l'obsolescence programmée, c'est une réalité. Les choses ne durent plus aussi longtemps. Maintenant, ça ne coûte plus non plus le prix que ça valait il y a 30 ans. Je fais la blague régulièrement aux clients, mais ils ont tendance à oublier que il y a 30 ans, une machine à laver, c'était un cadeau de mariage. Ça valait un salaire. Maintenant, une machine à laver, vous en avez une pour moins de 200 euros. Donc en effet, ça ne dure pas, mais ça ne coûte pas le même prix non plus.
Par exemple, une machine à laver, est-ce qu'on pourrait estimer sa durée de vie en moyenne, ou c'est trop compliqué ?
Moi, je donne entre 7 et 10 ans. Maintenant, ça fait parfois plus, parfois moins. On n'est jamais à l'abri non plus de tomber sur une mauvaise série, ou en tout cas quelque chose qui peut durer bien moins longtemps. Mais moi, je dirais que la norme, c'est à peu près ça.
Et vous, qui êtes là depuis un petit moment, vous avez l'impression que la vente d'électroménagers, enfin de gros électroménagers, elle est en hausse ou en baisse ?
Elle est clairement en hausse. En fait, ça va faire donc que j'attaque ma 5e année. Les ventes sont exponentielles depuis 4 ans et demi.
Ça, vous l'expliquez par un prix peut-être plus avantageux, ou l'obsolescence programmée ?
Alors certainement un prix avantageux, puisqu'on est sur le gros électroménager, ça fait un petit peu en fait la pub pour Electrodépôt, mais clairement sur le gros électroménager, on est entre 20 et 30% moins cher que la concurrence.
Pourquoi ?
Parce qu'on est plus malin que les autres, parce qu'on n'a pas des beaux rayons, parce que c'est du libre-service, et c'est pas comme la plupart des enseignes où le client vient, dit au vendeur, je veux ça, il va chercher un chariot, il lui emmène dans la voiture. Là, c'est du libre-service. Alors on donne un coup de main, bien sûr, mais on ne déplace jamais de camions qui ne sont pas en pleine charge non plus, ça réduit les coûts. Enfin, tout ça mis bout à bout fait que... Et puis on a nos propres marques aussi qui font que forcément on est très très bien positionné.
Donc nous, en gros, nos clients, ils déposent leurs produits malades ou complètement HS en magasin pour en récupérer un neuf. Et nous, derrière, on stocke jusqu'à avoir une quantité suffisante pour fournir NV29, qui en fait récupère tous nos vieux électroménagers. Alors ça peut être un lave-linge, un four, un frigo.
J'avais été impressionné de voir la quantité de matière et d'eau qu'il faut pour construire de l'électronique ou de l'électroménager. Enfin, je me débrouille un peu en informatique et souvent j'aide de la famille ou des amis à réparer des trucs. Ou, en fait, ils ont l'impression que ça marche plus alors que tu appuies sur un bouton ou sur des choses.
T'as débranché et rebranché.
Ouais, c'est un peu ça. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs sur Brest d'ateliers comme ça. J'aimerais bien en rejoindre un justement pour apprendre un peu plus dans l'électronique, okay. Préparer les grippins, des choses comme ça. Et je pense que c'est un peu pareil. On a tendance à peut-être se dire qu'il y a un truc qui marche plus alors qu'en fait, il y a juste un ou deux trucs à modifier. Pour que ça refonctionne.
Ouais.
D'après la DME, la fabrication de l'ensemble des équipements d'un foyer moyen représente 106 tonnes de CO2. Pour se faire une idée, c'est 6 allers-retours Paris-New York. Alors pour consommer de manière plus responsable, on peut tout à fait acheter des produits réparés ou reconditionnés car leur remise en état est moins demandeuse en ressources matérielles et en énergie. Alors on continue notre périple et on va suivre les appareils défectueux d'électrodépôt pour aller rendre visite à Envie 29 à Brest.
Les salariés en insertion prennent les machines dans ce stock brut.
Sophie Courbarien, responsable communication du groupe.
Et ensuite vont donc les diagnostiquer, savoir où est la panne, les réparer, changer également les pièces d'usure pour donc entamer un process de rénovation et ensuite les contrôler pour enfin les vendre au sein de notre magasin Envie 29. Ici, nous sommes donc au sein de Envie électroménager Bretagne. Cet espace est dédié au stock brut, c'est-à-dire aux machines destinées au réemploi. Donc, on a vu tout à l'heure qu'elles étaient sélectionnées en fait par un trieur chez Envie Transport Bretagne. Et ici, vraiment, c'est des machines auxquelles on va donner une seconde vie. Envie 29, c'est une entreprise d'insertion qui remet à l'emploi des personnes très éloignées du monde du travail ou exclues socialement. Envie Transport Bretagne, aujourd'hui, c'est 8 salariés en insertion, 2300 tonnes collectées, dont 720 sont destinées au réemploi. On a également 4 camions. Sur Envie électroménager, il y a 17 salariés en insertion et on a rénové l'année dernière 3100 appareils.
Est-ce que dans ces 2800 tonnes, il y a un gros pourcentage d'appareils qui sont en bon état, facilement récupérables ou ils sont transformés pour le recyclage ?
Alors sur Brest, nous sommes spécialisés dans les gros électroménagers. Donc on collecte, en tout cas on rénove que les gros électroménagers. Sur Rennes, on va également reconditionner des appareils multimédia. Après, on ne répare pas, en tout cas, on ne rénove pas de petits électroménagers.
Nous récupérons les appareils dans les points d'enlèvement, que c'est comme ça qu'on les appelle. Donc c'est
Gilles Fintin, responsable transport et logistique d'Envie 29.
Donc ce sont principalement des distributeurs, des déchetteries et des artisans qui ont un lien avec Ecosystème. Ecosystème, c'est un éco-organisme. C'est eux qui sont chargés par l'État de collecter l'écotaxe et qui sont chargés par l'État de coordonner la gestion de ces déchets. Les D3E. Les D3E qui sont les déchets d'équipements électriques et électroniques.
Vous recevez à peu près combien d'appareils par jour ou par semaine ?
C'est difficilement quantifiable, c'est en fonction de la saison. Sur une année, à Brest, on peut collecter jusqu'à 2800 tonnes de ce type d'appareils. Alors, beaucoup vont en valorisation matière, hein, c'est-à-dire qu'on reprend les matières une par une pour les recycler. C'est difficilement quantifiable, mais peu d'entre elles passent côté réemploi. Environ, ouais, il me semble que c'est 3% des appareils que l'on collecte iront dans le magasin.
Est-ce que le fait de réparer un appareil prolonge son espérance de vie par rapport à un appareil neuf ? Par exemple, des fois, on dit que les vieilles voitures ont des moteurs plus résistants, qu'on peut plus facilement réparer. Est-ce que c'est la même chose avec des appareils électroménagers ou ça leur donne juste un peu plus d'espérance de vie ?
Je pense qu'en fait, on prolonge la durée de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que plus de 50% des pannes sont liées à l'entretien. Et les gens, en fait, quand ils ont une panne sur un électroménager, n'ont pas forcément le réflexe de la réparation.
Parce que c'est vrai que dans l'opinion collective, on se dit souvent que réparer un appareil, ça coûte plus cher parfois que d'en racheter un
9 sur Envie 35 à Rennes. On s'aperçoit au contraire qu'avec maintenant le label Cali Répare, qui est donc, en fait, c'est une prise en charge, une prise en charge de l'État directement sur facture, diminue nettement les coûts de la réparation.
Régulièrement, les machines que l'on a en rénovation, il suffit juste de changer les pièces d'usure, par exemple les charbons moteurs, avec un tournevis et un... Et 3 euros, n'importe qui peut le faire.
J'imagine que c'est aussi très avantageux au niveau des prix.
Alors effectivement, sur la même gamme de produits, nos produits sont environ 50% moins chers que le prix du neuf. Aujourd'hui, on propose en plus une garantie de 2 ans. C'est vraiment un plus.
On vient d'entendre qu'il est possible de reconditionner, remettre en état du gros électroménager défectueux et de donner accès à des produits qui sont moins chers, garantis, tout en favorisant la réinsertion professionnelle de travailleurs en difficulté. Mais comme le dit Gilles Fintin, c'est seulement 3% des appareils récupérés par Envie 29 qui peuvent être réparés. Cette perte questionne notre consommation d'objets et la notion de propriété. Alors c'est vrai qu'on peut pas toujours s'affranchir de notre frigo, notre bouilloire ou notre four, mais certains objets, comme le karcher, la perceuse ou l'escabeau par exemple, sont très peu utilisés à l'année et peuvent facilement être loués ou échangés.
Privilégier le collaboratif et le partage. Une perceuse sert en moyenne 12 minutes sur toute sa durée de vie, de quoi s'interroger sur nos pratiques de consommation. Des solutions existent pour utiliser au maximum un bien, tout en réduisant ses coûts, en privilégiant l'usage qu'on en fait sur le fait d'en être propriétaire. On peut choisir de partager ou de mutualiser des biens, des savoirs ou des services.
L'Objetac, c'est un lieu où, comme une bibliothèque, on va venir emprunter des choses. Alors, c'est pas des livres, ça va être des objets dont on a une utilisation ponctuelle.
Benjamin Sahin, responsable de l'Objetech de Quimper.
Pour nous, il existe différentes formes d'Objetech. Il y a des bricothèques, donc c'est plus axé bricolage. Nous, on est un peu dans divers univers. Le bricolage, le jardinage, tout ce qui est lié au matériel de cuisine pour la maison, le sport et loisirs. Et les sciences, on a même aussi des choses dans le médical, donc des béquilles, on a un petit fauteuil roulant, donc plein de choses qu'on utilise ponctuellement.
Où vous récoltez ces objets ?
Alors le principe des objets tech, c'est basé, ça ressemble un peu aux ressourceries. En fait, on récupère le matériel qui n'est pas utilisé par les gens. Donc on propose aux gens, plutôt que de laisser chez soi du matériel à stocker qui n'est pas utilisé, eh bien, soit de le donner à l'Objetech, soit de le mettre à disposition, donc de faire un prêt à l'Objetech. Et puis nous, on le range dans nos rayons. Et comme ça, l'idée, c'est que ça serve, que ça ne reste pas dans les placards avec, à prendre la poussière. Voilà, donc on est à 400 objets, mais ça vient petit à petit, donc on n'a pas forcément beaucoup de retours par rapport aux objets, même si là, sur une année et demie, on a beaucoup d'emprunts sur tout ce qui est bricolage. Donc là, le top, le numéro un, c'est l'échafaudage. On a un petit échafaudage qui sert très bien. La visseuse. Sinon, on a aussi du matériel de camping qui marche bien. Donc la traditionnelle tente qu'on utilise très très peu. Le nettoyeur haute pression aussi. Et on a aussi tout ce qui est lié au camping, matelas gonflables et je pense aussi on avait récupéré des châteaux gonflables donc qui ont bien marché pour les enfants. On a deux châteaux gonflables.
Donc c'est plutôt le divertissement et l'entretien, les domaines des objets qui servent à divertir comme le camping pour un week-end et après entretenir sa maison ponctuellement.
Pour l'instant, oui, mais ça peut bouger. Il y en a beaucoup de demandes sur différents thèmes. Donc, il n'y a pas forcément de vérité. En tout cas, c'est la vérité du moment, mais ça peut bouger. Et tout dépendra aussi de ce qu'on va récupérer et aussi acheter, parce que pas mal de besoins que nous demandent les gens, mais on n'a pas forcément le don ou la mise à disposition du matériel, donc on fait aussi de l'achat de seconde main pour répondre à ces besoins-là.
Est-ce que vous sentez qu'il y a une envie grandissante de s'équiper avec des objets d'occasion ?
Depuis une dizaine d'années, en fait, on achetait beaucoup de neuf, on avait du mal à passer à l'occasion. Aujourd'hui, ça a bien changé. C'est plus un problème d'acheter d'occasion, voire d'offrir des choses d'occasion. Maintenant, il y a un passage vers l'emprunt aussi, vers la location, qui se fait aussi sur des sites comme Le Bon Coin. On commence à voir des particuliers qui mettent des choses en location. Donc, c'est en train de changer puisque on a compris que déjà on pouvait passer du neuf à l'occasion et aussi passer finalement à réfléchir, aller un peu plus loin et se dire que finalement j'ai pas forcément besoin de posséder un objet, de le poser chez moi. J'ai juste un besoin de sa fonction, d'user en fait quelque chose. En tout cas, j'ai un besoin. J'ai pas un besoin de posséder un objet.
Les personnes qui empruntent des objets, vous avez l'impression que c'est plutôt par confort, c'est-à-dire pour pas s'encombrer, pour l'écologie peut-être aussi, pour favoriser plutôt l'occasion que le neuf, ou est-ce qu'il y a aussi une énorme partie qui est en fait tout simplement économique ?
Alors moi je pense que c'est d'un côté opportuniste en fait, économique, pas forcément écologique. Même si je pense que chacun comprend que c'est l'utilité et que c'est plus sain en fait de venir emprunter plutôt que de cumuler chez soi. Donc après, il y a différentes personnes en fait. Il y a des gens qui sont là aussi par soutien, qui n'ont pas forcément besoin mais qui adhèrent au principe. Il y a un engouement et en tout cas il y a un engouement aussi dans d'autres villes. Il y a plein d'appels à projets, d'objets tech qui sortent. Oui, tout à fait. Rendre accessible en fait le matériel pour tous, comme ça se fait pour les livres, parce que c'est plus simple et plus écologique. L'idée, c'est aussi de montrer un nouveau mode de vie aussi, qui est plus sain pour la planète, puisque ça évite le fait d'éviter d'acheter, évite de multiplier le même nombre de produits pour chaque foyer. Ça évite l'extraction, ça évite tout ce qui est lié au transport, à l'emballage, etc. Donc ça a tout son sens. Donc il y a ce côté-là écologique, il y a ce côté social aussi de rendre accessible et aussi de développer le faire, puisqu'on a tendance à attendre en fait une prestation de service. Ça se fait beaucoup dans le commerce en fait. Finalement, on n'apprend plus grand-chose. Et l'idée, c'est vraiment de se réapproprier le fer, les machines, le matériel, et développer sa créativité tout en ayant accès en fait, à ce matériel qui nous manque quand on n'a pas forcément grand-chose.
Faire soi-même, en plus de nous permettre de créer des objets qui nous ressemblent, faire soi-même est un moyen de réduire les coûts et d'éviter le gaspillage. Par exemple, en réparant nos équipements ou vêtements endommagés. Un bon moyen d'apprendre de nouvelles compétences manuelles et de développer sa créativité.
Pour approfondir ma réflexion sur l'équipement, j'ai participé à la fresque des possibles sur la thématique « S'équiper » proposée par Le Lieu Dit. Le Lieu Dit, c'est une association qui regroupe plusieurs structures du pays de Brest, toutes engagées dans les transitions et qui propose des fresques de sensibilisation. La fresque, c'est un atelier collaboratif qui a pour but de revoir nos modes d'action quotidiens et de chercher des alternatives plus durables d'un point de vue écologique. Au cours de cet atelier, j'ai pu remplir mon carnet d'adresses de solutions et d'alternatives à l'achat d'équipements neufs.
S'équiper, c'est au sens large du terme, c'est tous les biens de consommation.
Carole Hernandez, chargée d'animation et de communication au Lieu-Dit.
C'est vrai qu'on a tendance à acheter des produits neufs. Et en fait, l'objectif, là, c'est vraiment d'identifier des solutions pour éviter de surconsommer et trouver d'autres solutions. Donc, par exemple, ça va être le réemploi, ça va être la réparation, ça va être le prêt, ça va être le partage. Donc là, on va vraiment identifier quelles sont les solutions qu'on a qui peuvent être à notre disposition, proches de chez nous, facilement adaptables à notre environnement, à notre quotidien. Ça va vraiment être tous les objets. Donc ça passe bien sûr par les vêtements, puisqu'on le sait, hein, les vêtements, c'est vraiment un gros pôle de consommation. Mais il va y avoir aussi l'électroménager, il va y avoir bien sûr aussi tout l'informatique, les téléphones portables, les ordinateurs, il va y avoir aussi l'aménagement intérieur. C'est vraiment tous les biens
qu'on a et qu'on achète. Comment on peut s'équiper de manière plus responsable, de manière générale? Ça va être plutôt favoriser la seconde main, le réemploi, ou alors on peut aussi penser à des nouveaux modes de consommation éthiques, mais neufs.
Dans cette thématique, on parle souvent de sobriété, c'est-à-dire moins acheter, avoir moins d'objets, et on peut imaginer dans ces cas-là que les parures, qu'elles soient pour nos intérieurs ou pour nous-mêmes, doivent être abandonnées. En fait, là, c'est vraiment pas le message que nous, on veut faire passer. Le message qu'on veut faire passer, c'est celui du plaisir. L'objectif, c'est de faire les choses en se faisant plaisir. Donc si c'est les parures qui sont importantes, les bijoux, la décoration dans l'intérieur, bien sûr, il faut le garder, puisque ça fait partie de notre quotidien et de nos besoins. Mais on peut le faire effectivement différemment, puisque le réemploi, par exemple, sur la décoration est tout à fait possible.
En quelques points, quels sont les objectifs de cette activité? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'à la fin, les personnes qui participent comprennent ou apprennent?
Alors, on va avoir en fait plusieurs objectifs. Le premier, c'est vraiment de découvrir des solutions locales, puisque l'objectif, c'est vraiment que ce soit proche de chez nous, que ce soit facile à mettre en place et en œuvre au quotidien. Ensuite, ça va être vraiment l'échange, échanger sur ces pratiques et partager ces connaissances. On n'est pas du tout sur un atelier descendant. Ce n'est pas nous qui allons donner les solutions. L'objectif, c'est vraiment que les participants échangent entre eux leurs bons plans et leurs astuces. Et ensuite, on va avoir aussi réfléchir ensemble pour rendre en fait les transitions accessibles à tous, puisque on veut vraiment que ce soit accessible à chaque personne en fonction des besoins et des contraintes de chacun.
Éviter la surconsommation. On peut aspirer à plus de sobriété en consommant tout simplement moins, ou mieux, en choisissant des équipements de meilleure qualité qui auront une durée de vie plus longue. On peut aussi chercher à réparer ses équipements plutôt qu'à acheter du neuf, et choisir de vendre, échanger ou donner plutôt que de jeter.
Alors des solutions, il en existe énormément, c'est pour ça que la fresque existe, puisque l'objectif c'est d'identifier quels sont les besoins et les contraintes de chacun. On ne va pas proposer la même chose à différents types de populations. Une mère célibataire ne va pas pouvoir faire les mêmes choses qu'une famille, c'est vraiment en fonction des besoins. Effectivement, il existe donc la solution du réemploi qui marche très bien. Il existe aujourd'hui beaucoup de recyclerie, de friperie, en fonction vraiment de ce qu'on veut. Il existe différentes solutions. Après, il y a des nouveaux modes effectivement de consommation et surtout, par exemple, des modes de partage. On peut éviter d'acheter pour soi uniquement, mais partager les choses avec ses voisins, par exemple, avec ses collègues. Ça peut se faire dans différents cadres, avec ses amis même, pourquoi pas. Il y a une méthode qui s'appelle par exemple la méthode bisou. Pour savoir justement, pour faire un achat en conscience. Donc il faut prendre les initiales du mot. Le B, ça va être besoin. Donc c'est à quel besoin cet achat répond. Est-ce que ça répond vraiment à un besoin? Ensuite, le I, c'est immédiat. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment pour tout de suite maintenant? Est-ce que je peux attendre plusieurs jours pour me décider? Le S, ça va être semblable. Est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose qui est semblable et qui pourrait sinon avoir cet usage-là? Le O, c'est comme origine, donc d'où est-ce que ça vient, qui l'a produit, quels sont les matériaux? Et le U, c'est utile, c'est-à-dire est-ce que vraiment je vais pouvoir le réutiliser? Si c'est pour l'utiliser une seule fois, dans ces cas-là, peut-être que je peux me tourner plutôt vers le prêt.
Et dans les besoins, est-ce qu'on inclut le plaisir, comme on parlait tout à l'heure des parures, et l'utilité aussi? Des fois, il y a des achats qui ne sont pas utiles, qui sont juste pour nous faire plaisir.
Tout doit se faire en fait en conscience, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on part du principe que les choses doivent se faire avec du plaisir, mais toujours en conscience. C'est-à-dire que si, il ne faut pas que ce soit impulsif. C'est un peu ça, effectivement, qui peut être dangereux, c'est l'achat impulsif. Mais ensuite, si vraiment il y a quelque chose qui nous fait plaisir, bien sûr, on peut y aller.
Après tous ces ateliers, est-ce que vous sentez une envie grandissante de s'équiper différemment ou de réparer, de prendre de l'occasion dans le Finistère, vu qu'on est à Brest?
Oui, effectivement. Bien sûr, il y a de plus en plus de solutions qui sont à disposition des gens. On touche aussi de plus en plus de gens, et donc des publics aussi très variés. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus conscience ce qui nous arrive, ce qui va arriver à la planète, tout ce qui est réchauffement climatique et à quel point on peut, nous, avoir du poids sur ces sujets-là. C'est vraiment, l'objectif, c'est de sortir donc, du triangle de l'inaction qui fait qu'on se dit, c'est pas à moi de faire, ça va être aux industriels ou aux politiques, mais se dire finalement, non, mais en fait, c'est moi en faisant qui vais pouvoir aussi avoir un impact sur justement les entreprises, par exemple, et le gouvernement.
C'était Ribine, à retrouver sur radioévasion.net ou transistor.bzh.